Donc je suis aux rencontres brèles avec les Monkey Theorem et qui vont d'abord se présenter puis présenter un peu la formation.
Alors Écorce, MC de Monkey Theorem.
DJ Accor, DJ de Monkey Theorem.
El Casper, MC de Monkey Theorem aussi.
Le Marquis de Saint-Bruno, bassiste et machiniste.
Donc il y a quand même un instrument classique, on va dire. Qu'est-ce que vous avez dans vos machines? Qu'est-ce que vous avez sur vos platines, DJ et MCs?
Alors en fait, la formation, nous on travaille avec des beatmakers, qu'on appelle des beatmakers qui font les instrumentales de tout horizon, qui nous envoient des instrus sur lesquels on enregistre des morceaux, etc. Et qu'on réadapte sur scène, du coup avec le Marquis qui joue la basse ou le clavier, et sur lesquels le DJ Accor vient poser des scratchs, et sur lesquels nous on rappe.
C'est
pas mal, hein.
Bien dit, hein.
Et sur la platine, sur le scratch, il y a quoi alors?
Je peux pas en parler, c'est secret. Faut venir au concert pour se rendre compte. Non, bah il y a des sons scratch que j'ai.
Un mec qui vous fait des. C'est du vinyle ou c'est des platines?
C'est que des sons. Oui, ça c'est la grande question qu'on me pose souvent. Sur quel site t'as téléchargé tes scratchs? Donc non, je ne vais pas sur scratch.com. Donc c'est tout numérisé à partir de vrais vinyles que j'ai achetés. Et du coup après c'est moi qui fais mes propres montages de sons scratch.
Ou des fois c'est des trucs que t'as fait même toi-même, que t'as récupéré des acapellas de morceaux exemple.
Des acapellas à droite à gauche de groupes ricains français ou sur des sons scratch vinyle voilà.
Et de nous aussi.
Bien sûr. Il y a des acapes de Monkey Theorem. Donc aussi bizarre que ça soit, il y a des scratchs de Monkey Theorem dans le groupe Monkey Theorem. Je pensais pas avoir besoin de le dire.
Maximal quoi.
Ouais voilà, ça fait beaucoup de Monkey Theorem dans la même
scratch
phrase.
Ma voix.
Mais voilà, donc prochaine étape, je m'auto-scratch moi-même, mais ça c'est dans un avenir proche.
Donc vous n'êtes pas David Guetta quoi.
On n'a pas le temps. Et on n'a pas l'envie surtout, mais bon, rien contre lui, mais bon. On va zapper le sujet David Guetta. Hein.
On va venir bien sûr au nom du groupe et puis aux textes qui sont importants évidemment. Mais restons un peu sur la technique parce que vous avez également, j'ai pu voir quelques-uns de vos clips qui sont très bien produits, très bien inventés, assez drôles, etc. Donc est-ce qu'on peut parler aussi de ces clips, de comment vous êtes arrivé à mettre vos chansons en scène de cette manière et qui vous met en image?
Bah, du coup, on bosse... Pour la partie technique, en fait, on travaille avec des collègues à nous qui nous suivent depuis un moment, qui font presque partie du groupe, puisque voilà, ils sont vraiment là pour nous aider à créer cet univers visuel. Et je pense notamment à Simon Hervieux et à Christon Gviet, qui sont deux personnes voilà, qui nous ont beaucoup aidés. Et en gros, après, l'idée, c'est qu'en fait, depuis le début, nous, on est passionnés par justement tout ce qui est science-fiction, cinéma. On a tous un peu touché à la vidéo aussi. Yuri, par exemple, lui, il bossait là-dedans. Et du coup, on a eu envie de mettre toutes nos compétences au profit de nos clips parce qu'en fait, on trouve ça cool. Justement, ça donne une autre dimension à la musique. C'est un autre terrain d'expérimentation où on peut rajouter des trucs, on peut s'amuser. Tu penses peut-être notamment au clip Le Topo, on a complètement déliré, ou à d'autres clips où on est parti plus dans des délires un peu rêveurs, spatial, etc. Voilà, c'est notre kiff quoi.
Pour nous en fait, la dimension vidéo de faire des clips, c'est quasiment aussi important que faire des morceaux en fait. Ça participe autant à développer l'univers de Monkey Theorem par l'image. Donc pour nous, c'est voilà, on travaille nos clips avec autant de soin qu'on essaie de travailler nos morceaux. Et donc voilà.
Un groupe de Grenoble, hein, on l'a pas dit, vous êtes grenoblois, on le sait notamment dans un clip aussi puisque on voit le tram grenoblois, c'est filmé un peu dans les rues et dans le tram à Grenoble.
Quasiment tous les clips sont soit à Grenoble, soit autour de Grenoble, dans des spots qu'on a trouvés.
Et donc vous parlez d'un univers de science-fiction dont vous êtes fan, etc. On va en parler un petit peu puisque justement c'est le thème. Alors d'abord on va parler de Monkey Theorem, le nom du groupe. Parce que c'est pas rien, faut aller le chercher quand même, faut le trouver celui-là. Si je me trompe pas, donc il s'agit d'un théorème qui dit que si on met un chimpanzé devant une machine à écrire, on pourrait dire un ordinateur aujourd'hui, et sur un traitement de texte, il y a une chance qui est faible, mais il existe une chance qu'il puisse taper la suite de lettres qui correspond à l'œuvre complète d'Hamlet, par exemple, ou à une encyclopédie.
J'aurais pas dit mieux. Ouais. Et sur un temps infini, c'est ça qui est important.
C'est un peu une... À la base, on a découvert ce truc parce qu'on cherchait un nom tout simplement. Mais c'est un concept qui nous a plu et que du coup, on a... Voilà, qui... qui est un peu une métaphore de notre musique, quoi. C'est-à-dire que voilà, le côté instinctif, le côté faire des expériences scientifiques, voilà, c'est un peu comme ça aussi qu'on voit la musique. Voilà, puis c'est des symboles aussi. Le singe, c'est un symbole qui nous parle, quoi. C'est une espèce de mascotte qu'on aime bien. Après, justement, on a commencé à décliner ça, notamment sur le dernier album, avec le côté justement voyage dans l'espace, singe astronaute. Et en fait, c'est des. Ce qui s'appelle Silence Cosmique. Et en gros, c'est à chaque fois. Voilà, c'est des ouvertures vers, je sais pas, de l'imaginaire, et on s'exprime là-dedans, quoi, en gros, quoi. C'est l'idée.
Alors, tu dans tes explications, excuse-moi, mais tu restes un petit peu léger, un petit peu superficiel, et si je peux me permettre, hein, excuse-moi, alors qu'en réalité, il y a quand même beaucoup plus de profondeur que ça dans les textes, et il y a un questionnement sur l'humanité même, en fait, sur la nature humaine et sur ce que sont capables de réaliser les hommes, et éventuellement de réaliser aussi des conneries, de s'autodétruire ou de se transformer pour aller vers une post-humanité dont on commence à parler un petit peu.
Un des thèmes phares de la SF, c'est le délire post-apocalyptique, justement l'anticipation, se dire où est-ce que ça va finir. Et je pense qu'on n'est pas vraiment dans... On n'est pas vraiment dans une revendication, une contestation de politique des choses actuelles, mais plus dans un truc de se dire bah, on aime bien imaginer comment ça va finir et où est-ce qu'on va aller. Du coup, il y a deux morceaux auxquels je pense Quadruman 2.0, il y a un clip et Singe Savant qui s'inscrivent là-dedans, où ça peut, du coup, avec la technologie, avec les je sais pas, des choses bêtes comme les réseaux sociaux, on en parle et voilà, du coup on anticipe
le fait que bah par exemple la technologie ça nous enferme de plus en plus, on commence à répéter des gestes comme si on était des singes dans une expérience, par exemple. C'est des thèmes qu'on aborde dans Singe Savant tout le délire en fait post-apocalyptique. Effectivement, nous on n'est pas là, enfin on n'a pas envie d'écrire des choses genre vraiment politique, mais très actuel, et répéter en plus des choses qui nous semblent déjà dites mieux. C'est pas ça qui nous fait vibrer, nous, c'est plus le je sais pas, trouver une métaphore pour exprimer ce qu'on ressent, quoi. Voilà.
Je pense qu'il y a vraiment trois facettes qui se dégagent de ce projet. Il y a le côté, tu t'en parlais tout à l'heure, le côté un peu drôle, léger, où on aime bien aussi rigoler. Je pense au Topo, mais il y a aussi Parpaing, où tu sais très bien ce que j'en pense. Et puis il y a le côté aussi spleen, les gars, ils aiment bien écrire des choses aussi de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils traversent, un peu leur peine, leur joie, j'en sais rien, mais voilà, du coup, sincère, voilà. Il y a des choses, il y a vraiment ces trois ambiances-là qu'on peut retrouver sur scène. C'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois d'articuler un set. On a beaucoup travaillé pour ça, pour que les gens puissent être embarqués dans notre truc qui est un peu hybride à des moments, quoi. Voilà.
En fait, toutes ces métaphores autour du singe, etc., toute cette imagerie hyper vaste qu'il y a autour du singe, de l'infini, de l'écriture, des machines à écrire, du laboratoire, etc., on n'a pas du tout envie que ça soit limitant, en fait. C'est des trucs qui nous parlent, qui nous amusent, qui nous font triper, qui nous inspirent. Mais si on a envie d'écrire un morceau sincère qui parle de but en blanc de ce qu'on a envie de vivre, ou ce qu'on a envie de ce qu'on vit, ce qu'on a envie de retranscrire à l'écrit, eh ben on n'a pas du tout envie que ça nous limite. Donc on peut placer de temps en temps une petite référence à ça, à cet univers-là, mais ça ne va pas du tout nous empêcher de... Voilà, on ne veut pas faire que des concept albums ou des concept morceaux où on parle que du singe, que de l'infini, que du laboratoire, etc.
Alors j'en profite, puisque tu parles de concept album, c'est quand même le lien que j'ai établi, mais peut-être vous me direz si avec Ayam, et justement cette dimension Jedi qu'on va retrouver aussi dans la littérature, puisque vous parliez littérature science-fiction, de Bordage ou Philippe K. Dick, des choses comme ça.
Bah oui, c'est la référence, la comparaison à Ayam est flatteuse, mais c'est un peu ce qui nous a inspiré, ouais, justement. Au même titre qu'Ayan dans leur album L'école du micro d'argent, il y a en fait ce fil rouge autour des samouraïs, etc. Mais pourtant, ils font aussi des morceaux comme Petit Frère où ils parlent pas du tout de ça. Mais voilà, c'est une sorte de fil rouge qui vient saupoudrer un peu tout l'album pour dresser un univers, mais c'est pas du tout quelque chose de limitant. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Silence Cosmique, autour de la métaphore spatiale ou simiesque du singe, mais sans forcément se limiter.
Ouais, puis parce que c'est aussi notre... Enfin, on a envie d'avoir une identité, quoi. De pas être juste dans le... dans, allez, se dire on fait du rap, alors on prend tous les codes du rap, on les recrache bêtement, on fait ce que tout le monde fait, et voilà, on fait notre place comme ça. Nous c'est plus, on se dit, bon bah ok, on aime le rap, mais aussi on aime d'autres choses, et du coup on mélange tout ça, et à travers le rap, on donne notre identité à nous, et on l'espère, ce sera justement original, et ça parlera à des gens qui justement n'ont pas envie de juste de venir écouter notre musique, hein, pour qu'on leur balance du déjà entendu, des codes, il faut faire comme ci, comme ça, voilà.
Alors sur ce code-là, il y a un truc qui m'apparaît un tout petit peu contradictoire justement, c'est que vous avez une approche assez, on pourrait dire intello pour simplifier quoi, avec des textes ciselés, etc. Néanmoins dans le phrasé du chant, il y a ce côté un peu wesh-wesh, si je peux dire, du rap un peu comme ça. Est-ce que c'est pour se donner ce côté brut ou pas? Parce que justement, dans les albums d'IAM, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'il y a en plus un petit peu... Ouais.
Le wesh est arrivé bien plus tard, je pense. Je crois qu'on a inventé le wesh, il me semble, en 82, je crois.
Après, ce qui est intéressant, c'est le... Enfin, moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime dans le rap, c'est qu'il y a justement cette approche brute, c'est-à-dire on n'est pas dans un truc littéraire où on va forcément broder, mais à la base, on dit les choses un peu de manière voilà, brute, et on mélange avec justement par exemple IAM, eux ils ont voilà, ils ont du vocabulaire, ils ont des idées qui s'arrêtent pas juste
je pense voilà. ce qui doit te faire tiquer, c'est peut-être l'argot, et je pense que les gars ils se privent pas en fait tu vois en vocabulaire en fait on passe des heures à faire des jeux de mots, et en fait on va chercher tous les mots possibles inimaginables pour du coup enfin voilà, on va piocher dans tout, dans des choses très alambiquées, et des choses au contraire du langage familier, de cité peut-être, mais voilà.
Moi je suis pas du tout d'accord avec toi, je trouve que IAM justement, il y avait exactement cette ambivalence entre des mecs quand même qui réfléchissent, qui sont intelligents, qui ont un vocabulaire, et quand même ce côté un peu brut, cité, tu vois, entre guillemets. Je trouve que c'est pas du tout, enfin, et nous je trouve qu'on est un peu dans ce même genre là, tu vois. Après nous on n'est pas des mecs de cité particulièrement, tu vois, etc. Mais on est des jeunes d'aujourd'hui, etc. Donc on essaie, et moi j'aime bien justement mélanger, ce que je trouve intéressant, c'est de mélanger tout ça, tu vois, c'est de mélanger cet argot de rue, entre guillemets, et ces références littéraires qu'on peut avoir, parce que justement on a un peu étudié, on les a, tu vois. Et on va pas forcément, parce qu'on fait du rap...
Vous lancez dans l'hyper sophistiqué à la Abdelmalik, par exemple?
Non, moi, je trouve ça agaçant, moi.
Ce qui nous énerve, ouais. Ouais. Et en plus, par exemple, moi je pense plutôt à IAM, mais à des groupes comme La Rumeur. La Rumeur, justement, ils disent des choses hyper sincères, profondes, etc. Et des fois, ils vont l'utiliser avec de la vulgarité, mais ils vont trop bien l'utiliser. Ils vont dire une insulte, mais à un moment où, tac, elle a trop d'impact, et que des belles phrases auraient pas pu remplacer ça, en fait. C'est un effet qu'on aime bien.
Alors que les mecs, La Rumeur, c'est des mecs qui ont fait des thèses, tu vois. Ils savent tout à fait s'exprimer dans le langage hyper soutenu, mais non, ils choisissent d'utiliser ce langage brut parce que ça a plus d'impact, comme il dit. Ça peut avoir plus d'impact si c'est bien utilisé. Donc nous, on aime bien mélanger tout ça, justement, parce que moi, j'estime qu'une phrase hyper alambiquée peut avoir de l'impact autant qu'un mot d'argot, tu vois, qu'une phrase en trois mots d'argot.
Ok, et ben, on va vous laisser vous préparer parce que vous êtes sur scène bientôt. Peut-être un petit mot pour l'auditeur qui va écouter le concert juste après cette interview.
Bah, que dire, effectivement, bah, c'est toujours le but de la scène, quoi, d'essayer de retranscrire ce qu'on sort sur un album, avec voilà, le retranscrire, que ça soit pas une pâle copie de l'album, que ça soit voilà, que ça apporte une plus-value scéniquement, enfin voilà, du coup on encourage tout le monde à venir nous voir sur scène pour nous programmer, bien sûr, hein, voilà.
Alors mais... tout ce qui est de 3000 personnes, voilà, ça va, bon, ça commence à être bien. Mais non, mais en vrai, voilà, venir me voir sur scène, c'est aussi parce qu'on sur scène on s'éclate, et nos morceaux, on les réinterprète, on les vit aussi sur scène, donc je pense que c'est cool à voir, et puis on aime bien partager aussi avec les gens.
Voilà.
Je vous remercie, je vous souhaite ainsi qu'à nos auditeurs un très bon concert.
Merci.
Merci.